Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame cette deuxième heure de l'émission et on ne peut pas le faire sans jeter un œil attentif à toute l'actu éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est la production industrielle qui rebondit de 0,8% au mois d'avril. C'est plus que prévu et c'est grâce à la reprise de l'activité dans les raffineries après les grèves et à une hausse de l'activité dans les matériels de transport hors automobile. En revanche, la production diminue de nouveau de 0,3% dans l'industrie agroalimentaire, pénalisée par la hausse des prix. Plus que quelques heures avant le verdict de S&P, l'agence de notation américaine dira ce soir aux alentours de 22h si elle dégrade la note de la France de double A avec perspective négative à double A moins. Alors quels sont les risques en cas de dégradation? Écoutez Eric Heyer, le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
La France, là, est à 18 sur 20. Ouais. Donc, en gros, et après, vous pouvez mettre ça comme des mentions au bac. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez le triple A, vous avez 20 sur 20, et là, vous êtes vraiment premium. Ensuite, entre 19 et 17, vous êtes considéré comme haute qualité. Puis, quand vous êtes dégradé à 16, de 16 à 14, vous êtes considéré comme qualité supérieure. Et puis, de 14 à 11, qualité inférieure. Il ne faut pas descendre en dessous.
Pourquoi?
Donc, si vous descendez en dessous, là, il peut y avoir des petits soucis. Vous voyez, dans les accords de Bâle, mettons dans Bâle 3, vous voyez, quand vous prêtez, quand une banque prête à un acteur un peu risqué, à un ménage, une entreprise qui est un peu risquée, il faut, dans les accords, avoir prêté à un acteur sans risque. Et ben, pour être considéré comme sans risque, et ben, il faut avoir au moins, l'État, au moins 11 sur 20. Et donc, si vous êtes dégradé quand vous passez à double B, alors là, et ben, les banques n'ont pas, peuvent pas acheter, mettons, de la dette pour dire, voyez, j'ai prêté à un acteur sans risque. Et voyez, ça, c'est l'Italie.
La garde à vue de Jean-Charles Nahouri a été levée hier, en fin de soirée, sans charge retenue à ce stade contre lui. L'enquête a été ouverte en février 2020 par le parquet national financier. Le patron de casino est soupçonné de manipulation de cours en bande à organiser, corruption privée et active et passive, ainsi que de délits d'initiés commis en 2018 et 2019. Le titre du groupe se reprend ce matin après avoir chuté de près de 10% hier à la clôture, atteignant son plus bas historique. Une plainte au pénal va être déposée lundi à l'encontre de Renault. Selon Le Parisien, il s'agit d'une action collective. Des dizaines de propriétaires de Renault, Dacia et Nissan accusent les constructeurs auto de moteurs défectueux. Au total, 1872 victimes se sont fait connaître et plus de 133 000 véhicules sont concernés. Et puisqu'on parle de Renault, sachez que Luca De Meo est l'invité des pionniers ce soir dans les émission. Rendez-vous à partir de 19h sur BFM Business. Aux États-Unis, Meta a présenté hier un nouveau casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 3, premier casque grand public avec réalité mixte en couleur haute résolution. Il sera commercialisé à l'automne aux États-Unis aux alentours des $500. Et lundi, eh bien, ce sera au tour d'Apple de présenter le sien lors de sa conférence des développeurs. Ce sera le premier lancé par la marque. Édition spéciale de Tech & Co à suivre ce lundi dès 20h sur l'antenne de BFM Business. Et puis les États-Unis ne seront pas en défaut de paiement. Après la Chambre des représentants, c'est le Sénat qui a voté cette nuit en faveur du relèvement du plafond de la dette. Une grande victoire pour l'Amérique saluée par Joe Biden. Washington avait jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collo, chaque heure, pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve Mickaël Jacobi chez Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Comment voyez-vous les choses se présenter en cette fin de semaine sur les 7200 points?
écoutez, c'est un marché qui est plutôt positif aujourd'hui. On a une variation donc de positif de plus 1%. On est autour des 7210 points. C'est positif. D'une part, effectivement, on acte l'adoption par le Sénat du texte donc sur le plafond de la dette. Et d'autre part, on marque aussi les espoirs de voir la Fed faire une pause sur la remontée des taux. Il faudra en revanche attendre 2 semaines avant d'avoir le fameux de l'histoire. On a aujourd'hui les chiffres de l'emploi US. Donc on va probablement avoir quelques petits sursauts cet après-midi en termes de volume, car ceux-ci sont actuellement assez faibles. On est en dessous des 500 millions traités sur le CAC aujourd'hui.
Allez, quelques secteurs ou quelques valeurs à regarder. Le real estate d'abord.
Oui, effectivement. Alors, les valeurs foncières sont plutôt clairement dans le vert. Hein. On a notamment Unibail-Rodamco qui se trouve en territoire positif à plus de 4,5%. Le secteur est clairement acheté aujourd'hui. Alors, il y a une nouvelle provenance de Chine qui, effectivement, est en train de regarder de faire un paquet d'aide pour booster l'économie et notamment en visant le secteur de la propriété et donc du real estate. Et ceci aide aujourd'hui les valeurs clairement achetées par le marché qui aime cette nouvelle.
Un petit mot d'Alstom également ?
Oui, alors Alstom a annoncé la signature d'un contrat aux États-Unis pour la livraison de 130 tramways électriques. Donc c'est une nouvelle qui est positive. Hein. On est en train de parler d'un contrat de plus de 650 millions d'euros. Le titre performe positif à plus de 2,6%, à 26,72 €, l'heure à laquelle on parle. Et ça va donner probablement un peu de visibilité positif pour le titre Alstom sur moyen long terme.
Et on termine par un petit survol du monde du sport.
Tout à fait. Donc on a un read across positif sur après la publication aux États-Unis du distributeur sportif Lululemon, hein, qui était après bourse à plus de 13%. Les comparables européens Adidas, Puma, mais aussi Nike aux États-Unis sont tous clairement dans le vert sur les cotes respectives allemandes, US et donc on voit effectivement un peu d'engouement sur le secteur des distributeurs sportifs aujourd'hui.
Merci beaucoup Michael Jacobi et Odo BHF qui nous accompagnent ce matin sur ce marché parisien. Très bonne fin de séance, le CAC 40 en hausse d'un tout petit peu plus d'1%, 7210 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Rachid Medjaoui. Bonjour Rachid.
Bonjour Cédric.
Pour Louvre, banque privée et Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Éditorialiste chez BFM Business. Le Sénat, après la Chambre des représentants, a donc adopté, bon c'est sans surprise, hein, cette loi qui nous évite le psychodrame du plafond de la dette. Vous êtes soulagé Rachid ?
Oui, c'est un grand soulagement parce que le scénario adverse aurait été un peu Armageddon quand même. Hein. Donc, très grand soulagement en termes d'incertitude. Donc, c'est une épée de Damoclès en moins, sachant qu'il y a quand même encore beaucoup de facteurs d'incertitude au-dessus, qui planent au-dessus des économies et des marchés financiers. En revanche, c'est une petite nouvelle concernant la trajectoire de la dette américaine qui reste un sujet clé. Donc, soulagement pour les marchés, mais il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, ce sujet revienne quand même sur le devant de la scène si jamais les agences de notation devaient s'amuser en particulier à noircir et peut-être à dégrader la note de Washington.
Emmanuel, effectivement, psychodrame évité ?
Oui, mais on peut quand même tirer pas mal de conclusions du projet d'accord qui a été signé entre Joe Biden et finalement les Républicains. Il y a alors oui, effectivement tout si il n'y avait pas eu d'accord, ça aurait été très compliqué, mais on a quand même un accord qui va impacter assez sensiblement la trajectoire des finances publiques et la trajectoire de l'économie américaine. Puisqu'on sait par exemple que quel type... On sait d'abord, un, qu'il va y avoir une réduction des dépenses publiques. Or ça, ça va avoir un impact sur la trajectoire de l'économie américaine. Ça avait été le cas d'ailleurs en 2011 aussi, lorsque il avait fallu aboutir au même genre d'accord. On voit aussi que les dépenses de défense, par exemple, sont plutôt maintenues. Ce qui baisse, c'est toutes les dépenses dites discrétionnaires. On voit que les programmes de lutte contre la pauvreté sont quand même un peu durcis. Donc, c'est quelque chose qui aura un impact sur le plan social. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les crédits d'impôt, par exemple, notamment ceux qui sont proposés dans le cadre du fameux IRA, ils sont plutôt maintenus. On a l'impression qu'il va y avoir des suppressions d'effectifs de fonctionnaires, notamment tout ce qui concerne les services de recouvrement des impôts. Donc on peut pas dire que s'il y a une baisse des dépenses, il y a de l'autre côté un acharnement à remonter la pression fiscale. Donc voilà. Mais quand même, cette réduction des dépenses, elle va avoir un impact assez sensible, sans doute, sur la trajectoire de l'économie américaine. Je regardais ce qu'a écrit notre ami Hervé Gouletker d'Accuracy. Lui, il dit, grosso modo, l'accord, ça coûterait quand même 0,4 points de PIB en moyenne annuelle. Donc c'est pas neutre.
C'est pas anodin.
Et puis après, il y a un petit impact. Alors, je pense qu'il, lui, est une turbulence, mais quand même, quand vous aviez les caisses du Trésor américain qui étaient tombées à 50 milliards et qu'il faut les remonter à 450, 500 milliards, il y a un appel d'air quand même sur la liquidité qui, alors ça ne va pas être très, très, très durable, mais quand même, ça peut provoquer quelques turbulences aussi sur les marchés.
Bon, donc, ce défaut armageddonesque a été évité. Est-ce qu'il y a malgré tout des risques que vous avez identifiés qui perdurent?
Oui, les risques sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand on regarde les différents signaux historiques qui annoncent avec plus ou moins de véracité la récession, eh bien, on en a encore beaucoup qui flashent orange, voire rouge. Et en particulier la courbe des taux, les fameuses enquêtes manufacturières, toutes les enquêtes régionales de la Réserve fédérale. Et puis l'élément central, c'est quand même qu'on a eu une hausse des taux incroyable, hein, plus de 5 points avec un délai extrêmement court, donc du jamais vu depuis la fin des années 80, et le credit crunch, il est en train de se diffuser. Et donc,
c'est-à-dire que vous êtes un peu sur la même ligne que la Fed, que la Réserve fédérale, et même Janet Yellen qui le pointe et qui dit attention, ça risque de s'accroître, de s'amplifier, de s'aggraver cette contraction du crédit.
Ça va se diffuser, enfin c'est presque programmé. Il faudrait je sais pas quelle nouvelle comme ça magique pour empêcher, parce qu'on le voit déjà dans un certain nombre de secteurs. Alors pour le moment, si vous voulez, on a des éléments pour nous rassurer, pour dire si le creux conjoncturel arrive en fin d'année, il ne devrait pas être sévère, il devrait être plutôt bref, parce que disons qu'il n'y a pas de déséquilibre macroéconomique très fort qui nous emmerait, mais pour cela, on surveille énormément le monde du crédit, le monde coté du crédit, pour voir, parce que c'est de là que peut venir le problème. Je pense notamment à tous ces leverage loans, tous ces véhicules qui vont du private equity au crédit leveragé. Pour le moment, ça tient. Si jamais ça devait craquer là, on aurait un impact beaucoup plus fort. Donc oui, les incertitudes sont toujours là. Et puis je rajouterais bien entendu les incertitudes géopolitiques, avec quand même cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine, la guerre des puces contre la guerre des terres rares. C'est quand même quelque chose qui peut profondément changer, voilà, les choses. Donc des risques, mais la bonne nouvelle, Cédric, c'est que ces risques sont quand même assez bien identifiés par les marchés. Et donc c'est leur impact devrait non plus ne pas être non plus trop exagéré.
Risque que vous partagez, Emmanuel, ou il y en a d'autres que vous pointez ce matin?
Oui, je pense qu'il y en a d'autres. D'abord, j'ai commis un petit lapsus tout à l'heure. C'est pas 0,4 points de croissance en moins, c'est 0,4 points sur le déficit public en moins, ce qui fait plutôt 0,2 points de croissance.
C'est pour ça que je disais l'impact n'est pas pour moi extraordinaire, parce que 2011, on a eu un impact de 0,7 sur le PIB. Hein.
Voilà. Autant pour moi. Pour compléter ce qu'a dit Rachid, moi, il y a quand même un sujet qui est pour moi la grande incertitude. C'est le timing, finalement, de la politique monétaire et les effets du resserrement monétaire sur l'activité économique. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une espèce de d'enchaînement en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la hausse des taux d'intérêt qui a été amorcée depuis un an et qui a été la plus forte, finalement, et la plus rapide jamais enregistrée, on voit l'inflation reculer et donc on se dit bah en fait mécaniquement c'est forcément l'impact de la hausse des taux d'intérêt qui commence à se répercuter sur les sur l'activité et sur l'inflation. Mais la réalité c'est pas celle-là. La réalité c'est que le recul de l'inflation auquel on assiste aujourd'hui, il est lié finalement au, au reflux et à l'atténuation du choc d'offre qu'on a connu sur tout un tas de produits de base, de matières premières, de coûts divers, de l'énergie, du transport, etc. Et que c'est ça qui reflue aujourd'hui. Mmh. Prenez la meilleure preuve, c'est qu'on a quand même des pays qui pratiquent des politiques monétaires totalement déroutantes. Je prends l'exemple de la Turquie, qui baisse ses taux d'intérêt et où vous assistez à un reflux spectaculaire de l'inflation. C'est bien que le reflux de l'inflation auquel on assiste aujourd'hui n'est pas vraiment lié aux politiques monétaires. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au moment où la croissance ralentit, au moment où l'inflation ralentit, c'est maintenant qu'on va commencer à voir les effets du resserrement monétaire. Donc, les craquements dont parlait Rachid, moi, j'avoue que j'ai peur de ces effets sur pas seulement sur le secteur financier, parce qu'il y a une partie de la hausse des taux d'intérêt qui est bénéfique pour les secteurs financiers. Mais franchement, comment l'économie mondiale va digérer et comment les États-Unis et l'Europe vont digérer la hausse massive des taux d'intérêt dont l'impact ne s'est pas encore vu, moi, franchement, c'est ça qui m'inquiète, avec une inquiétude derrière ça majeure, qui est l'inquiétude sur le secteur de l'immobilier en général. C'est-à-dire, prenez l'immobilier de bureau, prenez l'immobilier résidentiel. S'il y a bien un secteur qui n'aime pas la hausse des taux d'intérêt, c'est celui-là. Bien sûr. S'il y a bien un secteur qui est déjà fragile aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, il y a des aspects à surveiller particulièrement dans le système financier. Mais moi, j'avoue que quand même, sur le secteur de l'immobilier résidentiel, commercial, et dans beaucoup de pays, c'est ça, c'est pas seulement un problème français. Moi, j'avoue que ça fait quand même beaucoup d'alertes pour un seul secteur. Et moi, j'avoue que c'est surtout de ce côté-là que je m'inquiète.
Un petit mot justement sur cette Europe. Quel est votre sentiment? Et notamment sur ces questions d'inflation. Est-ce que le pic est bien passé? Et est-ce qu'on peut décemment espérer un retour vers les 2%?
Le pic, oui. Je crois que c'était... on avait une certaine... confiance, parce que vous aviez des effets de base tellement puissants, avec notamment la rechute d'un certain nombre de matières premières, la sagesse des prix du baril, que techniquement, on savait qu'on allait diviser par deux l'inflation globale. En revanche, la deuxième partie du chemin va être beaucoup, beaucoup plus dure, parce que, même si le dernier chiffre a surpris positivement, mais on sait que les tickets à 49 euros en Allemagne ont beaucoup aidé cette inflation à sortir en dessous des attentes. Donc, quand on essaye de se projeter devant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que le thème de ce qu'on appelle l'excuse inflation, donc le fait que les entreprises ont des politiques de marge agressives, on le voit dans les... Alors c'est très bon pour les bénéfices, hein, mais c'est pas bon pour l'inflation. On voit quand même que les salaires sont vraiment complètement dérapés, quand même accélèrent. Donc aujourd'hui, on n'a pas les ingrédients, avec une certaine confiance, pour dire qu'à horizon d'un an, l'inflation, sauf bien entendu écroulement de l'économie, ce qu'on ne voit pas non plus, l'inflation, le noyau dur de l'inflation, comme on dit, va revenir autour des 2-2,5%. Clairement, c'est pas le cas. Et donc, ça, alors, la BCE va peut-être attendre pour voir les effets dont parlait Emmanuel de sa hausse des taux, en disant on va peut-être attendre un peu. Mais aujourd'hui, encore une fois, et c'est vrai pour les États-Unis, c'est pareil, on aura le chiffre de l'emploi américain cet après-midi avec les salaires. On sait tous que pour que l'inflation revienne dans les 2-2,5%, il faudrait que la hausse des salaires revienne en dessous des 3% à peu près. Pourquoi? Parce que l'inflation de moyen terme, Emmanuel le sait, c'est productivité versus salaire. Si vous avez des salaires qui cavalent tout le temps à 4% et une productivité qui est scotchée à 1,5%, vous avez peu de chances de revenir à 2,5%.
Cette inflation, ouais, le pic passé et pas de retour programmé si bas qu'on le souhaiterait.
Moi, je pense quand même qu'il y a des forces de rappel assez puissantes, hein, qui vont nous ramener. Moi, je pencherais plutôt pour effectivement un temps intermédiaire autour des 3-3,5% d'ici la fin de l'année, et qu'on reviendra sans doute peut-être, on perdra peut-être encore un point à l'année fin d'année 2024. Alors c'est sûr qu'on retrouvera pas les 1-1,5% qu'on avait avant la crise sanitaire pour tout un tas de raisons, hein, la transition écologique, la baisse de la concurrence, les relocalisations, des chaînes de production plus robustes donc qui demandent une certaine diversification, etc., etc. Moi, il y a quand même un aspect dans l'enchaînement qui m'intéresse et que je trouve plutôt vertueux. On parle toujours de la boucle prix-salaire. Et il y a une boucle prix-salaire qui est vicieuse, qui est néfaste à l'économie. C'est effectivement quand vous augmentez les salaires, que ça pèse sur les comptes des entreprises et que du coup, vous nourrissez l'inflation et que vous avez au final vos entreprises qui s'affaiblissent, qui perdent en compétitivité et en efficacité. On peut arriver au même résultat, l'augmentation des salaires grâce à l'inflation, mais par un autre biais. Et c'est le biais qui est sans doute en train de se mettre en place aujourd'hui et qui est intéressant et qui est, lui, sans doute vertueux. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on voit plutôt aujourd'hui ? C'est pas une boucle prix-salaire, c'est une boucle prix-profit. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on le voit bien, regardez ce qu'ont donné les comptes de l'INSEE sur les marges des entreprises, on voit très clairement que les marges ont augmenté. Donc, si on arrive à enclencher un cercle vertueux dans lequel les entreprises ont pu répercuter leurs coûts dans leur prix de vente, que leurs marges ne souffrent pas trop, que grâce à ces profits et face effectivement, au nouveau déséquilibre qu'on a sur le marché du travail, notamment cette pénurie de main-d'œuvre, eh bien, grâce à ses profits, elle distribue des augmentations de salaire. Là, vous êtes dans un cercle vertueux dans lequel vous avez des entreprises qui sont plutôt en bonne situation financière, qui redistribuent les fruits de la prospérité aux salariés, dont les salaires augmentent et qui, du coup, peuvent finalement relativement préserver leur pouvoir d'achat face à une hausse des prix qui, de toute façon, ne semble pas devoir déraper fortement. Moi, j'aime bien regarder quand même, parce que pour moi, la vraie boucle prix-salaire, si on la voit, c'est dans le secteur des services. Et les chiffres qu'on a sur le secteur des services sont plutôt rassurants. C'est-à-dire que l'inflation a plutôt ralenti dans les services. Ça, c'est de l'inflation à bas bruit, celle des services. On n'en a jamais beaucoup parlé parce qu'elle est pas spectaculaire quand on est à 3,5. Mais quand vous passez de 3,5 à 3 sur un poste qui représente quand même la moitié des dépenses des ménages chaque mois et qu'on fait tout un pataquès sur l'alimentation qui ne représente quand même que 15% des dépenses mensuelles des ménages. Moi, je trouve qu'on peut avoir là un cercle vertueux dans lequel, finalement, l'augmentation des prix pourrait ne pas être trop préjudiciable à l'évolution du pouvoir d'achat.
Allez, il nous reste trois petites minutes pour parler du gros sujet de ce vendredi, la note française. Ça vous inquiète ou pas de voir Standard & Poor's peut-être nous dégrader ce soir, Rachid ?
Oui et non, c'est jamais une bonne nouvelle que voilà ce type de publicité. Maintenant, on reste quand même, on resterait avec une note voilà
ouais, de très, double A.
Double A, donc il y a pas de sujet. La question, c'est plutôt l'argumentation qui va être utilisée le cas échéant pour justifier cette baisse du rating et les perspectives, parce que avec la situation politique actuelle en France, et surtout quand on essaye de se projeter dans les deux prochaines années, c'est vrai que bon, on avait un bel élan, on avait la France était redevenue et reste attractive, hein, on le voit dans beaucoup de chiffres. Il est clair qu'il faudrait pas que ce type d'annonce vienne un peu casser cet élan.
Emmanuel, pour finir.
Bah, c'est vrai que on a l'impression que quand des pays sont dégradés, maintenant, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais regardez, en 2012, quand on a perdu finalement notre triple A, ce qui était un événement qui avait quand même marqué les esprits, un an après, on avait des taux d'intérêt qui étaient 100 points de base plus bas qu'au moment de la dégradation. Moi, je pense que ça a un impact quand même politique, c'est-à-dire que c'est un désaveu et un coup de règle sur les doigts quand même du président de la République et de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire qui quand même font beaucoup d'efforts pour asseoir une certaine crédibilité à la trajectoire française. Et puis l'autre signal que ça enverrait quand même, et où là ça marque une rupture importante, ça fait quand même 40 ans que les marchés financiers, Bruxelles, nos partenaires européens avec beaucoup de patience achète au fil des ans les mensonges et les fausses et les promesses un peu d'ivrogne de la France sur la réduction de ses déficits, etc. C'est-à-dire que quand vous regardez depuis, allez, 30, 40 ans, allez, je vous mets 40 ans, mais 30 ans aussi, les trajectoires que la France promet sur ses finances publiques ne sont jamais, jamais, jamais tenues. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que tout le monde achète quand même nos bobards, entre guillemets. Là, ce serait quand même peut-être le signe, et c'est un peu le sens de ce que disait Fitch quand ils ont dégradé, c'est que là, quand même, l'histoire qu'on veut nous vendre, elle est quand même difficile à avaler, et c'est vrai que les défis, là, sont particulièrement considérables. C'est-à-dire que si vous mettez d'un côté tous les besoins qu'on voit jour après jour peser sur la dépense publique, les promesses aussi qui sont faites de dépenses, la promesse de ne pas augmenter les impôts et la promesse de réduire les déficits, c'est vrai que ça fait quand même une équation qui est extrêmement, extrêmement compliquée et plus compliquée que jamais. Donc, moi, je pense que s'il y a dégradation, c'est quand même le signal de dire, bon, les Français, vos belles histoires, ça commence un peu à suffire, même s'il n'y a pas de doute sur la capacité à rembourser.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé autour de tous ces thèmes. Rachid Medjaoui, donc, pour Louvre, banque privée, et Emmanuel Lechypre, qu'on retrouve très régulièrement sur l'antenne de BFM Business. Dans un instant, un détour technique par les marchés, c'est Stéphane Sauduteil qui suit pour nous la séance. On le retrouve dans un instant.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et comme promis, on file chez Technibourse retrouver Stéphane Sauduteil qui suit pour nous la séance de cette fin de semaine. Un CAC 40 en hausse d'un peu plus d'un 30% à 7235 points. Est-ce qu'on aurait trouvé du carburant, Stéphane ?
Oui, oui, indéniablement. C'est vrai que les futurs américains sont très bien orientés, ont même accéléré leur hausse, pardon, il y a quelques minutes, et donc par effet de mimétisme, on monte également. On a débordé cette grosse zone de résistance, 7200-7220 points. Je pense qu'il y avait des stops de protection, des positions vendeuses qui étaient placées autour des 7220 points, et donc on le voit. Hein, ça, je pense que ces stops ont fonctionné. Et donc on crée une accélération haussière du CAC 40, on est à 7230, voire même un petit peu plus. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer quand même, hein, en attendant le NFP de cet après-midi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si on arrivait à clôturer cette semaine au-dessus des 7200 et a fortiori au-dessus des 7220 points, ça renverrait un signal plutôt positif pour le début de semaine prochaine. Ça, on effacerait un petit peu ce mauvais signal qu'on a eu toute la semaine en traînant sous les 7200 points. Mais il faudra quand même regagner des niveaux techniques un petit peu supérieurs pour effacer toute idée de rechute, c'est-à-dire passer au-dessus des 7280, 7300 et surtout les 7350 points qui vont servir de gros niveaux de résistance. Et si on avait par exemple un FP qui décevait cet après-midi et qu'on clôture ce soir, hein, ça reste encore possible, hein, en dessous des 7200 points, là pour le coup on pourrait peut-être parler de redémoralisation des investisseurs, et là on pourrait peut-être aller chercher finalement la zone de point bas de cette semaine, la semaine prochaine, les 7090 points, voire même peut-être les 7000 points. Donc on a un marché qui se cherche, hein, quand même. C'est pas hyper directionnel, donc c'est pas toujours très facile à travailler. Voilà, on est un peu dans cette mouvance depuis plusieurs semaines maintenant. À savoir que l'euro-dollar aussi a déclenché un petit signal d'achat en repassant au-dessus des 1,07. Il a tordu le cou à sa tendance baissière de tout le mois de mai. Donc là, on peut peut-être viser un petit peu plus haut sur l'euro-dollar. Alors peut-être 1,08, 1,09. Revenir sur la zone de point haut, j'y crois pas trop dans l'immédiat, mais j'ai bien l'impression quand même qu'on a mis en place un vrai point bas juste en dessous des 1,0680. Ça a eu pour effet aussi de redynamiser un petit peu les métaux précieux, hein, l'or qui traînait vers les 1940, on est repassé à 1970-80 sur les niveaux actuels. Et puis on a vraiment une dichotomie aux États-Unis entre les deux grands indices américains, le Dow Jones et les valeurs de la technologie. Le Dow Jones fait quasiment rien depuis le début de l'année, et les valeurs de technologie sont quasiment au plus haut annuel, hein, avec une progression de plus 25%. Donc on voit aussi, hein, quand on regarde les GAFAM, hein, les cours des GAFAM, elles se sont vraiment reprises significativement. Donc est-ce que ça va continuer sur ce tempérament-là? Voilà, ça reste compliqué parce qu'on arrive vraiment sur les zones de points hauts sur beaucoup des GAFAM, hormis Amazon. Donc il va certainement y avoir peut-être un point d'arrêt. Donc voilà, il est possible aussi, hein, qu'on continue comme ça à évoluer dans une zone assez étroite sur le CAC 40, sans vraie direction dans les prochaines journées et semaines. Donc voilà, marché pas toujours facile à travailler, et d'autant moins quand on est investisseur.
Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, Technibourse, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, 7234 points, progresse d'1,35%.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et on rejoint un Morningstar, nous attend Mathieu Caquino. Bonjour Mathieu.
Bonjour Cédric.
Ce matin, vous nous parlez d'une étude que vous avez récemment publiée sur les gérants de fonds qui changent de société de gestion. Étude qui se penche sur la question de savoir si c'est une bonne idée pour les investisseurs de les suivre. Alors pourquoi est-ce important quand un gérant s'en va ?
Les gérants de fonds qui changent de société de gestion, c'est assez monnaie courante dans l'industrie. Hein. Les gérants sont souvent soit débauchés par un concurrent, soit ils décident de créer leur propre boutique. Et donc, en tant qu'investisseur, si vous pensez bien que le fonds n'est plus intéressant après le départ du gérant, la question suivante, c'est est-ce qu'on doit suivre le gérant dans sa nouvelle structure ? La question sous-jacente étant, quelles sont les chances que ce gérant de fonds réplique son succès passé une fois qu'il aura changé de société ? Et en fait, c'est avec ces questions-là en tête qu'on a commencé cette recherche. On a regardé notre base de données, on a récupéré les données historiques remontant aux années 90 pour les fonds vendus aux États-Unis et début des années 2000 en Europe, et on a identifié environ 500 gérants qui ont changé d'entreprise. Et on a regardé leur performance avant leur départ et après leur départ, donc après leur arrivée dans leur nouvelle société, et on a regardé ce que ça donnait.
Et alors, qu'avez-vous découvert ? Est-ce qu'ils font mieux ou moins bien ?
Alors, dans les premières années après leur nouveau départ, entre guillemets, ces gérants, ils réussissent plutôt bien d'ailleurs. On voit une augmentation significative de leur performance ajustée du risque entre l'ancienne et la nouvelle société. Lorsqu'on regarde les périodes de 3 ans, donc c'est-à-dire qu'on regarde les 3 dernières années au sein de l'ancienne société, les 3 premières années dans la nouvelle structure, c'est plutôt positif. Il y a des incitations, hein, bien sûr, pour le nouvel employeur, ainsi que pour le gérant de fonds d'ailleurs, à produire de bons résultats rapidement. Donc la société de gestion fournit probablement des ressources et puis le soutien nécessaire pour réussir la transition. Et en regardant les données d'un peu plus près, on a aussi vu que les gérants sont responsables de moins d'argent à gérer dans les premières années avec leur nouvel employeur, ce qui peut rendre plus facile la surperformance. Les fonds sont plus agiles, le gérant peut aller investir sur des plus petites sociétés avec de forts potentiels. Et puis, enfin, une explication sans doute plus vraisemblable à cet effet de surperformance les premières années, c'est que les gérants, ils continuent à bénéficier du style d'investissement en vogue qui les avait conduits à être embauchés en premier lieu.
Concrètement, est-ce que les investisseurs doivent suivre le gérant ?
Bien, on voit que les gérants qui quittent leurs entreprises sont généralement de bons performeurs. Ils ont tendance à bien performer juste après la transition. Donc ça pourrait nous dire, oui, il faut suivre son gérant. Le problème, c'est que l'effet, entre guillemets, de nouveau départ ne dure pas très longtemps, puisque quand on étend l'observation au-delà des premières années dans leur nouvelle société, le rendement de performance commence à diminuer. Et en fait, en regardant les performances sur l'ensemble de l'historique du gérant, avant et après son départ, en moyenne, les gérants de fonds ont produit moins de surperformance dans leur nouvelle société par rapport à ce qu'ils avaient réalisé dans leurs anciennes sociétés. Et donc, ça incite à la prudence. Ça semble difficile pour un gérant d'être à la hauteur des attentes que sa première partie de carrière pouvait laisser espérer. Alors, ceci dit, il y a des gérants qui ont quand même bien réussi une transition sur le long terme. Mais pour les identifier, il ne faut pas uniquement se fier aux performances passées, mais regarder d'autres signaux, comme par exemple l'alignement de la culture d'investissement entre l'ancienne et la nouvelle société, le niveau de ressources aussi que le gérant va avoir dans sa nouvelle structure. Hein. S'il avait l'habitude de travailler avec une équipe de 10 analystes et qu'il se retrouve tout seul, c'est pas bon signe. Et puis l'aspect aussi culturel, c'est important. Hein. Les sociétés de gestion d'actifs qui ont de bonnes pratiques, avec une vraie vision à long terme, elles partent sur de meilleures bases pour réussir cette transition. Et enfin, on le répète souvent à cette antenne, les frais sont essentiels. Peu importe le talent du gérant, si les frais vous semblent excessifs sur le nouveau fonds qu'il va reprendre en main, passez votre chemin.
Merci beaucoup d'avoir regardé tout cela. Morningstar et Mathieu Caquino sur BFM Business dans Idées de fonds ce vendredi matin. Très bonne fin de semaine sur le marché, Mathieu. Le CAC 40 est à 7234 points et il progresse d'1,35%. On répond tout de suite à toutes vos questions.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Ces questions que vous nous envoyez jour après jour sur BFM Business, sur BFM Patrimoine, @bfmbusiness.fr, c'est mieux si on se met dans le bon sens. Et chaque jour, nos experts sont sur le pont pour vous répondre. Ce matin, François Monnier pour la rédaction d'Investir et Renaud Ramet pour Promépar AM. Vous êtes prêts, messieurs ?
On est prêts.
Allez, on démarre avec vous, François, et Alice, qui veut savoir ce que vous inspire la hausse du cours Amadeus. Et comme elle en est actionnaire, elle voulait savoir si elle gardait ou si elle vendait.
Bah, je pense qu'il faut les garder. Hein. Je pense que c'est même, on peut même encore les acheter.
On est dans le monde du voyage.
Donc, on est dans le monde du voyage. C'est un acteur qui est coté en Espagne. C'est un géant, d'ailleurs, espagnol, hein, qui a développé une plateforme de réservation de billets pour les agences de voyage, pour les compagnies aériennes, pour les entreprises. Et bien sûr, avec leur départ à nouveau de nombreux touristes chinois, eh bien, il y a un grand boom d'activité dans la région Asie-Pacifique. Et ça, on l'a vu déjà dans les chiffres du premier trimestre, et ça va encore se poursuivre au deuxième trimestre. Au premier trimestre, Amadeus a fait une croissance de 43% de son chiffre d'affaires. Les réservations en Asie-Pacifique, c'est plus 150%. Donc la croissance, elle est vraiment très très forte. Et c'est pas terminé, parce que on voit dans les statistiques, on estime que en 2023, eh bien, on aura repris que 85,5% du trafic qu'on avait pu observer en 2019. Donc il y aura encore des perspectives de croissance pour 2024 et au-delà. Résultat, sur l'ensemble de l'année, avec Amadeus, si on achète ce titre-là, ben, on vise une amélioration de plus de 20% de l'activité, avec une croissance extrêmement rentable. Le point faible, c'est que la valorisation est un petit peu tendue à 29 fois, mais on voit que on accepte aujourd'hui d'avoir des PER un peu plus élevés dans un contexte où on commence à parler un petit peu d'inflation qui refluerait. On voit qu'on arrive à la fin de la perspective de hausse des taux aux États-Unis. Donc la sensibilité PER, ratio cours sur bénéfice et taux est un peu plus faible que ce qu'on pouvait redouter au début de l'année. Donc finalement, on regarde surtout là la perspective de croissance des bénéfices, et elle est vraiment très 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 forte. Amadeus, c'est vraiment le leader dans ce domaine de la réservation. Il est mondial et il profite à plein de l'envie de voyage des Chinois.
Donc Alice, elle garde.
Donc elle garde, absolument.
C'est quelque chose que vous regardez, vous, Amadeus, chez Promépar ?
Oui, bien sûr, on regarde, bien sûr, sur la valeur. Elle est très difficile à, pour ceux qui n'y sont pas, elle est très difficile à attraper depuis le début de l'année, parce que le trend est vraiment très fort et très puissant.
Raison de plus pour garder, donc.
Raison de plus pour garder. On pourrait juste objecter que le consensus, pour le coup, là, le parcours arrive un peu à l'objectif du consensus, donc peut-être un peu moins de potentiel, à moins qu'il soit révisé, puis les esprits plus chagrins pourraient dire qu'elle pourrait faire partie de la besace des sociétés dites un peu à super profit qui pourraient dégonfler. Enfin, au regard des tendances que mentionnait François, la tendance devrait poursuivre, donc oui, on est favorable à Amadeus.
Voilà, Alice, quelques idées sur ce titre Amadeus. On passe à la question que vous envoie Fabrice Renaud. Les petites et moyennes valeurs accusent un retard significatif par rapport aux grandes capines, nous dit-il, depuis le début de l'année. Est-ce le moment d'y revenir? Et est-ce que vous auriez, si vous pensez que c'est le moment d'y revenir, bien sûr, des exemples à lui donner?
Alors le sujet, c'est un vaste sujet puis qui nécessite d'être un peu discriminé, parce qu'entre les petites et les moyennes valeurs, il y a les deux mots. Il y a les petites valeurs qui souffrent davantage, il y a une réelle discrimination. Parfois, elles surperforment traditionnellement un peu de manière un peu homogène. Là, il y a un vrai distinguo entre les small qui souffrent et les valeurs moyennes qui arrivent un petit peu à tirer leur épingle du jeu. Tout du moins, on voit que le marché garde une sensibilité aux nouvelles et aux résultats. Et voilà, donc pour revenir sur la classe d'actifs, en tout cas, c'est l'intérêt, c'est que c'est un réel appel value et cyclique. Voilà, c'est vraiment deux éléments, parce que la valorisation, il ne fait pas de doute qu'elle est largement très, très positive sur la classe d'actifs, non seulement par rapport au large cap, mais également par rapport à elle-même sur des ratios historiques, et avec surtout une très bonne croissance des bénéfices pour 2023. C'est une croissance largement supérieure, pour l'instant qui est probablement révisée encore trop en hausse, mais même révisée, même en étant un peu plus conservateur, on parle d'une croissance pour cette année de 10 à 15%, bien supérieure au large cap. Et donc ce qui manque, on le sait, c'est les flux qui s'inscrivent dans un cadre plus global de restriction de la liquidité, de hausse des taux, et donc ça leur est pas favorable. Donc entre guillemets, c'est ce qui manque, c'est cet aspect, cet élément qui est souvent peut être corrélé à un fameux point pivot des banques centrales. En tout cas, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est sur le type de société sur lequel il vaut mieux être positionné, quitte à faire le dos rond et à attendre, puisque dès lors que le feu s'anime, on n'a souvent pas le temps d'y aller. Alors, néanmoins, dans ce cadre-là, et pour répondre à la question très, très concrètement, stratégiquement, on a tendance un peu à vouloir remonter, si on n'a pas envie d'attendre trop longtemps, on peut remonter en termes de capitalisation et surtout bénéficier de sociétés qui peuvent croître leurs bénéfices, bien évidemment, sur 2023-2024, tout en accroissant leurs marges. Alors, on pense à des petites sociétés type GL Events, Equinops, ou dans des plus grandes tailles, SEB. Et puis, on voit également de très belles réactions type sur Beneteau, on voit sur Piaggio, Futenpajo, Technip Énergie également, ou même Voyageurs du Monde. Il y a aussi un secteur un peu un biais touriste, mais qui réagissent très bien, qui ont des très fortes révisions. Donc voilà, on fera donc attention également, les retraits, c'est toujours propice à des retraits de cotes qui, d'un autre côté, peuvent aussi un peu appauvrir, mais on voit que le segment reste animé de ce point de vue-là. Donc oui, on reste positif sur la classe d'actifs avec modulo cet élément flux qui est un vrai vent un peu de face en attendant, qui est toujours, ne pas oublier que c'est toujours un peu cyclique cet élément-là.
François, votre sentiment sur ces mid and small?
Bah oui, on a le sentiment que les investisseurs veulent plutôt des très grandes, après des moyennes, et s'ils ont un peu de place, ils prennent quelques petites. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des pépites au sein encore des petites, donc il faut essayer de les dénicher. Moi, j'ai envie de dire, si j'avais un coup de cœur dans une petite, s'il y en a une que j'achèterais, ce serait Katana. Katana, pourquoi c'est le il y a quand même un engouement pour ce titre-là et pour ce secteur, c'est qu'on a une assurance avec un carnet de commandes. Katana, vous avez les perspectives de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023, mais également déjà 2024, dans le domaine du nautisme, dans les bateaux, avec une marque phare qui est Bali, et on voit qu'il y a un fort appétit. Et ce qui nous plaît, nous, chez Investir, chez Katana, c'est que ils ont, c'est un peu comme l'automobile, souffert de problèmes d'approvisionnement. Et lorsqu'il y aura plus ces problèmes d'approvisionnement, eh bien, on peut penser qu'il peut y avoir encore une phase d'accélération et d'amélioration de la rentabilité. Donc, et on voit qu'il n'y a pas de problème pour passer des hausses de prix dans ce domaine. Donc, c'est une société qui nous retient. Donc, oui, il y a des affaires à réaliser au sein des petites. Simplement, il faut être peut-être un peu plus précautionneux parce que il y a le problème de la liquidité. Et puis, il y a moins de flux de la part des très, très gros investisseurs qui veulent pouvoir acheter que des sociétés qui réalisent au moins, qui procurent plus de 10 milliards de capitalisation. Donc là, c'est un autre monde, mais les affaires sont là, parce que ce qui finalement conduit à une hausse du titre, c'est la croissance des bénéfices. Donc parfois, il peut y avoir quelques retards, mais à la fin, on s'y retrouve toujours.
Donc vraiment, c'est du stock picking, quoi.
Oui.
Il faut vraiment aller regarder valeur par valeur et pas... de la typologie de valeur.
C'est une classe qui, par définition, on peut avoir des chiffres macro de croissance, comme je mentionnais, de global de la classe d'actifs, mais ça reste essentiellement et éminemment une affaire de stock picking. Ouais.
Question de Alain qui s'interroge sur Bolloré. Va-t-il finir par lancer une OPA sur Vivendi, François?
En tout cas, c'est peut-être, mais pas tout de suite. Ah. C'est ça, c'est ce qu'ont découvert les investisseurs qui l'attendaient avec impatience, et ils avaient, la communauté financière estimait que Bolloré allait agir à l'automne. Pourquoi à l'automne? Parce que Vivendi fait un rachat d'actions et ça allait monter la participation mécaniquement de Bolloré et de ses holdings au-delà du seuil symbolique des 30%. Et au-delà de 30%, eh bien, il faut lancer une OPA pour racheter les 70%. Donc ça, c'était la vision du marché. Et c'est vrai que Bolloré frôlait les fameux 30%. Il avait 28,9% d'un côté, et puis avec une autre structure, 0,5%. Et avec l'annulation des 42 millions de titres prévus à cet automne, eh bien, il franchissait les 30%. Mais il a pris tout le monde à contre-courant. Et finalement, il a vendu quelques titres qui lui permet finalement de rester sous les 30%. Tout de suite, ça a baissé, fait baisser le cours de Vivendi parce que l'attrait spéculatif, il a disparu, en tout cas pour l'exercice 2023. C'est très difficile de savoir ce que veut faire véritablement Vincent Bolloré, sachant que bon.
Pourtant, les investisseurs aiment bien suivre Vincent Bolloré.
Il aime bien le suivre. Donc, si vous voulez vraiment suivre et gagner de l'argent à ses côtés, il faut plutôt aller là où il a le plus d'actifs et le plus d'intérêts financiers, et plutôt aller sur Bolloré que sur Vivendi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bolloré dispose beaucoup de cash. À fin décembre, la société Bolloré avait 1,5 milliard d'euros de trésorerie nette. Ils vont récupérer au printemps 2024 près de 5 milliards parce qu'ils vendent Bolloré Logistique et donc ils se désengagent un peu de l'Afrique. Et donc là, ça, ils récupèrent 5 milliards. Donc tout le monde se dit, il va faire des emplettes. Donc est-ce qu'il va les faire sur Vivendi? C'est pas sûr. En tout cas, il n'y a pas d'urgence puisqu'il contrôle déjà l'intégralité de Vivendi. Donc il n'a pas besoin d'avoir les 100% du capital pour faire, j'ai envie de dire, ce qu'il veut sein de la société. Il agit déjà sur la stratégie. Donc il ne faut pas acheter Vivendi dans l'optique de dire il y aura une OPA à coup sûr, parce qu'il y aura peut-être d'autres opportunités qui s'offriront à Vincent Bolloré. Donc il faut rester. Il faut écarter, je pense, l'attrait spéculatif et se dire, si on se concentre sur Vivendi, qu'est-ce qu'on achète? On achète éventuellement une amélioration de la rentabilité de Canal+, des projets de Canal en Afrique, l'intégration à venir du groupe Lagardère et peut-être des acquisitions dans l'édition aux États-Unis pour renforcer Hachette. Donc c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut acheter Vivendi, mais pas dans une logique spéculative, parce que ça peut prendre un certain temps. Et puis surtout, l'empire Bolloré vit de cascade en cascade, donc ça veut dire qu'ils ont plein de structures, et l'unification de toutes les structures, ça ferait plaisir aux investisseurs, mais est-ce que ça ferait plaisir à Vincent Bolloré? C'est pas sûr.
Vous avez un regard sur Bolloré, sur Vivendi, sur...
Oui. Enfin, alors on a Vivendi, et puis même on pouvait miser, enfin, sur justement ce que signifiait François, qui est un peu assez identifié maintenant un petit peu dans le marché de simplification et de réduction de décotes de holding, hein, aussi bien en misant sur Bolloré et même Compagnie de Lodet pour être au plus près en fait des intérêts de la famille. Alors là, on pouvait espérer en 2023. Enfin, c'était vraiment un petit peu le sujet. Donc la technique financière était bien décrite par François. Et là, on voit qu'il y a décalage. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais c'est sûr que stratégiquement, le groupe se repositionne. Il n'est pas impossible qu'il soit en fait qu'il y ait une vision historiquement il y a quelques années assez précise d'aller vers les médias et qu'on y soit actuellement et puis qu'il y ait comme une forme on peut ressentir un peu d'attentisme ou d'interrogation peut-être sur sa stratégie ou sur les actifs à donner. En tout cas, il n'y a pas de précipitation à réinvestir la trésorerie. Et puis finalement, on voit, même en lisant la presse actuelle, on voit que c'est un groupe effectivement média. On voit l'éruption et l'émergence de l'intelligence artificielle qui peut venir poser des interrogations sur les agences médias, sur la presse, sur la musique, activité sur laquelle est positionné Vivendi et le groupe Bolloré dans son ensemble. Donc peut-être qu'il est peut-être même préférable pour le groupe d'avoir une revue posée des activités stratégiques ou de redéfinir un axe. Et ça, de toute façon, la société historiquement l'a toujours fait avec prudence, par petits pas, dans les engagements aussi bien que dans les désengagements. Donc de toute façon, le temps long est du côté de la famille et aux investisseurs de l'accepter s'ils souhaitent accompagner la famille Bolloré dans leur aventure.
Voilà, Alain, l'avis de nos deux experts sur ce dossier Bolloré. On passe à la question de Joseph. Quadiant vient de publier son chiffre d'affaires du premier trimestre et il n'a pas encore investi sur la valeur, mais il s'interroge sur la transformation de la société. Est-ce qu'on peut miser, nous dit-il, sur le redressement de Quadiant?
Alors Quadiant, c'est le nouveau nom de, enfin c'est l'ancien Neopost, hein, ce qui était les machines à affranchir, donc assez un métier assez industriel, mais également de service. Alors sans refaire évidemment toute l'histoire, mais c'est un vrai phénix. Hein, c'est une société qui a d'ailleurs un peu, on va dire, chevillé au corps la transformation. C'est très bien une société qui aurait très bien pu partir en private equity, se solder. Elle est elle-même issue d'un spin-off d'Alcatel. Elle a connu des fonds à son capital. Donc il y a un réel ADN à se transformer, finalement à survivre, et le choix a été pris stratégiquement, mais il y a de ça déjà une dizaine d'années, hein, de développer des relais de croissance dans la dématérialisation, alors plutôt dans les logiciels, la dématérialisation, et plus récemment dans les colis, dans les consignes de colis. Donc c'est mais en maintenant les deux chevaux en même temps. Donc c'est forcément une transformation plus lente, moins radicale, mais ce qui est stratégiquement pour nous serait la bonne, hein, parce que quand on a une vache à lait qui fournit des cash flow, eh ben, elle sert à financer les activités. Alors, le marché n'est pas tellement à l'écoute de ce genre de transformation un peu lente et risquée. Il l'a bien fait comprendre à Quadiant, enfin, anciennement Neopost. Aujourd'hui, on est plutôt dans des phases qui nous semblent d'inflexion. Donc, nous, on suit la société, voilà, assez précisément. Et on voit des courbes qui commencent à s'infléchir. C'est-à-dire qu'au moins sur un des deux relais de croissance commence à être en accélération plus prononcée et plus certaine, avec une base également de revenus récurrents et également des perspectives de développement et d'accélération sur la partie colis privés, puisqu'ils sont leaders de ces fameuses consignes, hein, au Japon, également au UK, aux États-Unis, où c'est vraiment des secteurs phares. Donc voilà, la valorisation, c'est une histoire de transformation, d'accélération de marge, le tout avec une valorisation qui est dépréciée, donc ça nous semble être, de toute façon être un tapis, voilà, c'est un socle assez solide. Donc oui, on a plutôt envie d'emboîter le pas. Attention, alors le consensus, lui, on va dire, il croit à moitié, on va dire qu'il y a un peu les pour et les contre. Ça peut être le moment, je veux dire, en tout cas un bon couple rendement-risque. Hein, la valorisation permet un peu une soupape à cette prise de risque dans des transformations qui, on sait qu'elles peuvent être un peu volatiles également. Mais on a plutôt envie d'emboîter le pas sur cette transformation.
Allez, il nous reste une minute pour répondre à Eric. François, êtes-vous acheteur de LDC ?
Alors, LDC, en une minute, d'abord, c'est quelques marques, hein, une marque bien connue, Maître Coq, Le Gaulois, Loué, Marie. C'est une société qui a subi quand même pas mal de défis à relever, hein. La grippe aviaire, la flambée des céréales pour nourrir les volailles, l'envolée des coûts de l'énergie. Et malgré tout ça, eh bien, on a des résultats qui sont fantastiques, puisque dans l'exercice qui s'est clôturé fin février, on a eu une société qui a été capable d'afficher une croissance de près de 15%, de plus de 15% de son activité, alors que les volumes ont reculé de 5 à 6%. Il y a eu des hausses de prix. Les marges sont même améliorées. On est passé d'une marge de 4,1 à 5,1%. Et il y a encore des perspectives de croissance, puisqu'ils visent pour l'exercice en cours 6 milliards de revenus. Ils sont à 5,6 milliards. Là, le grand défi, ça va être de dire on va baisser les prix pour augmenter les volumes. Il y a de l'innovation, il y a un vrai savoir-faire. Et puis, on a une société qui est très, très mal valorisée en bourse. Personne ne veut acheter du poulet ou de la volaille, en tout cas en bourse. Bon. Les consommateurs, oui. Et là, on est sur une capitalisation. La société capitalise seulement un tiers de son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment donné.
Donc, Eric, il peut acheter.
Donc, nous sommes à l'achat, bien sûr, de LDC.
Eh bien voilà, on peut acheter du poulet en bourse. Yes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. François Monnier pour Investir et Renaud Ramette pour Promépar AM. Dans un instant, vous retrouvez 90 Minutes Business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire de cette fin de semaine.
On va parler de ces quelques heures qui nous séparent du verdict de Standard & Poor's. Va-t-elle dégrader la note de la France ce soir ? On va voir que c'est une question plus politique économique. On parlera de Meta qui a grillé la politesse à Apple en dévoilant dès hier son nouveau casque de réalité virtuelle. Et puis on parlera aussi de chaîne éco-responsable d'hôtels. On va parler tourisme durable aujourd'hui sur notre chaîne. Et donc c'est les hôtels Grit qui seront avec nous notamment. Ce sera notre invité dans un quart d'heure.
À suivre donc 90 minutes business dans un instant. Le marché lui progresse d'1,2%, 7222 points. Et nous on se retrouve lundi à 10h. Très bon week-end.
C'était votre rendez-vous avec Moneta Asset Management, notre savoir-faire action pour votre épargne depuis 20 ans déjà.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.